Nous allons poursuivre avec la chronique Itzik numérique d'Emmanuel Reva. Donc, on a initié en septembre le principe de chronique courte, prise de position, peut-être coup de gueule. Et Emmanuel nous fait le plaisir d'être présent aujourd'hui en studio. Et donc, dans cette chronique, tu veux, je crois, faire un petit peu un coup de gueule sur le livre, c'est bien ça?
Ouais, un petit peu. Le livre ne va pas toujours très très bien.
Ok, bah écoute, on t'écoute.
Bah écoute, il existe un forum sur Reddit, ou un sous-reddit, qui s'appelle « Stallman was right », ou en français « Stallman avait raison ». Non, je ne vais pas parler de Epstein, tout ça. Sur ce forum, on voit passer des tas d'articles et des critiques contre les médias sociaux centralisés, Google et ces assistants virtuels que les gens installent dans leur salon afin de participer, malgré eux, à une panoptique 2.0. L'autre jour, je suis tombé sur un post qui parlait d'une de ces télévisions modernes que les gens peuvent s'acheter de manière totalement volontaire. Quelqu'un a découvert et dénonce que sa télé intègre des publicités. Son télécran affiche des pubs directement dans le menu de l'appareil. Clairement, Samsung est allé trop loin cette fois. Trop de publicité. La publicité, ça gêne, ça distrait et ça prend la place. En gros, c'est une nuisance visible et donc inacceptable. En effet, je dis ça parce que dans cette discussion, toute la partie espionnage et manipulation semble être au moins secondaire. La solution préconisée par la majorité des intervenants, et je rappelle, on est sur un forum qui s'appelle « Stallman avait raison », c'est d'installer divers types de bloqueurs de pub. Mais oui, continuer à acheter des Smart TV et ensuite acheter un autre ordinateur, genre un Raspberry Pi sur lequel il faut installer un résolveur DNS pour filtrer les noms des domaines des publicitaires. Il faudrait donc allumer un ordinateur de plus, juste parce qu'on ne peut pas installer un bloqueur de pub comme uBlock Origin sur les télés intelligents. Mais oui, c'est vrai, on peut rien installer sur ces téléordinateurs sans la permission du fabricant. Le truc qui me désespère vraiment, c'est quand t'arrives sur le forum et que tu dis juste « n'achetez pas une Smart TV » et le problème est résolu. On te répond des trucs du genre « c'est pas possible ». Presque toutes les télés modernes sont des Smart TV. Le bon vieil argument de Margaret Thatcher, il n'y a pas d'alternative. Comment ça, pas d'alternative ? Déjà, est-ce que l'achat d'un tel appareil est obligatoire ? Est-ce qu'une télé est vitale ? En plus, une télé qui vous espionne, qui utilise votre connexion internet pour télécharger la propagande consumériste à vous encombrer le menu de réglage de la luminosité d'un appareil qui veut juste la fin de nos libertés ? Excusez-moi Frédéric, il faut que j'envoie un petit texto à Adopi. Cher Adopi, je me dois de vous informer que je partage ma connexion avec Samsung, Google et Facebook. Par conséquent, je ne gère que dalle. Il y en a qui conseillent carrément d'acheter une Smart TV et après de démonter la chose pour ensuite déconnecter les modules Wi-Fi et Bluetooth de l'intérieur. Mais bien sûr, le conseil c'est de débourser la plus grosse partie d'un SMIC dans une télé espion et de commencer la relation en lui montrant le côté sombre d'un fer à souder. Non mais sérieux, faut pas dire ça aux gens. Faut pas dire aux gens de prendre le risque de casser leur truc tout neuf qui sent encore l'odeur de l'usine de la souffrance. En plus, si jamais, par chance, ton truc tombe en panne avant la fin de la garantie, t'as l'air fin, t'y restera plus qu'à te racheter le même dans sa version dernier cri, édition indémontable, ou comme on dit, Apple. Pendant ce temps, on parle de DOH, ou DNS via HTTPS, c'est-à-dire du DNS qui passe par le web. C'est censé aider à contourner la censure et à cacher les requêtes DNS du FAI, du fournisseur d'accès Internet. En gros, le truc qui permet à des logiciels de résoudre les noms de domaine en contournant les filtres DNS classiques. Tu sais, le truc qu'on nous a conseillé d'installer sur un Raspberry Pi pour éviter de recevoir la publicité en premier lieu. Alors on peut parier que très vite, après une bonne mise à jour forcée du système d'exploitation de l'humanité, la télépub va passer à ce système. Et le petit ordi qui tente en vain de protéger le peu d'espace privé qui nous reste, va simplement ramasser de la poussière en clignotant de temps en temps. La Smart TV contournera les filtres DNS sans problème. Si la Smart TV veut afficher des pubs, eh bien, elle le fera. Rien ne l'empêche de le faire, comme avec les DRM. En gros, on pourra vous obliger à connecter l'espion diffuseur de publicité à Internet pour qu'elle puisse fonctionner comme prévu. Sinon, pas de chocolat. Toute cette histoire est une bonne métaphore pour un truc horrible qu'on entend trop, trop souvent. Même parmi des libristes. Il n'y a pas d'alternative. On n'a pas d'alternative. Il n'y a pas d'alternative, je dois utiliser Gmail pour travailler avec les gens. Il n'y a pas d'alternative, si je n'ai pas de smartphone, je ne pourrai pas savoir l'heure. On n'a pas d'alternative pour sauver l'environnement, les droits des humains et toutes les autres choses que l'humanité ne mérite même plus trop. On doit absolument poster des images sur une plateforme qui censure de plus en plus ouvertement dans l'objectif de conquérir les marchés qui se trouvent sous des régimes autoritaires. Et au passage, nous habituer de plus en plus à la censure. Il est temps pour nous d'arrêter de faire des compromis. L'invasion du capitalisme de surveillance est allée bien trop loin et depuis bien trop longtemps. On perd notre énergie avec des rustines qui nous servent finalement qu'à soutenir la surveillance permanente. Ces rustines sont de plus en plus complexes, de plus en plus réservées à des personnes ayant des compétences avancées et surtout du temps à perdre. Il est temps d'arrêter les compromis. N'achetons pas de smartphone, n'achetons pas de smart TV, arrêtons de soutenir les médias sociaux centralisés et de manière générale les GAFAM qui ont pour objectif de devenir les gouvernements 2.0. Sinon, tous nos efforts jusqu'ici seront compromis. Je vais terminer juste avec une phrase que j'adore, qui est plutôt le titre d'une chanson de Jill Scott Heron, qui dit « The revolution will not be televised », ou en français « La révolution ne sera pas télévisée ».
Ben, merci Manuel, j'ai envie de te poser quand même une petite question. Tu y crois vraiment que les gens sont capables de faire ces décisions, ces choix ?
Je ne sais pas s'ils seront capables, mais c'est peut-être quelque chose qu'on doit faire si on veut rester libre, si on veut ne pas se sentir obligé d'avoir des smartphones, des smart TV, de tous ces appareils-là. À un moment donné, c'est peut-être à nous de faire ces choix qui ne sont pas toujours évidents peut-être, mais qu'il faut faire.
Et toi, dans ton activité, alors, vu que tu es sur place, on va en profiter un petit peu, comme on a un peu de temps devant nous. Toi, tu es informaticien ? Est-ce que tu te définis comme informaticien, peut-être ? Peut-être pas, d'ailleurs.
Alors, je dois me définir à un moment donné, parce qu'on me pose toujours des questions, et je commence à me définir en tant qu'informaticien militant.
D'accord. Ton activité professionnelle principale, aujourd'hui, c'est de faire de l'informatique libre, c'est ça ?
C'est ça.
Avec un public cible, c'est quoi ? C'est le grand public, c'est les entreprises, c'est les collectivités ?
C'est plutôt le grand public et l'associatif éventuellement et quelques entreprises un peu éthiques. Donc je travaille, maintenant je suis en Normandie, je travaille avec une association qui fait de la promotion de l'agriculture biologique. Donc je leur développe des outils, je leur installe des ordinateurs sous système libre, je leur propose des solutions de travail libre. Et j'essaye aussi de faire un petit peu de... quelques conférences ou des choses comme ça, de faire la sensibilisation. Donc j'ai pu faire 2-3 interventions dans les médiathèques autour de Granville et un tout petit peu à Rennes.
D'accord. Et le nom de ton activité professionnelle, c'est OGA ?
C'est ça.
H-O-G-A, le site web, c'est quoi ?
hoga.fr.
Et donc j'ai l'impression que ton activité est à la fois professionnelle mais aussi militante. C'est-à-dire que je suppose que donc quand tu vas voir les gens ou les gens avec qui tu discutes, tu leur parles aussi de ce que tu viens de nous parler dans cette chronique. Et comment ils réagissent ? Est-ce que ces personnes te demandent s'il y a des alternatives ? Est-ce que ces personnes t'expliquent que en fait elles peuvent pas se passer de Facebook pour être en relation avec leurs amis et avec leur famille ? Comment ça se passe ?
Alors, il y a les deux choses. Il y a d'un côté, il y a les gens qui, en effet, disent qu'ils ont besoin de Facebook et ce genre de choses-là. Et dans ces cas-là, ce qui est bien, c'est que je vis dans un coin où je n'ai pas besoin de beaucoup d'argent. Je n'habite pas à Paris, c'est fini, tout ça. Et donc, j'ai aussi la possibilité de dire aux gens, si vous voulez installer un ordinateur sur Windows avec Skype et machin, je ne suis pas obligé de le faire. Donc ça, c'est vraiment la liberté que je me suis pris. C'est d'avoir le choix de ne pas faire des choses que je ne veux pas. Donc quand les gens me disent « oui, j'ai besoin de Facebook, j'ai besoin de ça », je leur dis « très bien, faites, sans moi ». Et évidemment, on demande toujours des alternatives. Alors je peux parler de Framasphere et Mastodon qui peut remplacer une partie des fonctionnalités de Facebook. Et j'essaie d'être aussi honnête, de dire « sur Mastodon, il n'y a pas autant de personnes que sur Twitter ». En revanche, sur Mastodon, les gens qui sont là sont peut-être plus ouverts à des propositions éthiques, originales, etc. Ce n'est pas une plateforme commerciale. Donc, on lâche quelque chose et on gagne autre chose.
D'accord. Mastodon, on va préciser que c'est un réseau décentralisé de micro-blogage, des messages courts, même qui sont plus longs que sur Twitter. Alors, ça fait écho à... J'étais récemment à un forum sur les médias associatifs ou médias indépendants et associatifs, et qui parlaient de leur dépendance un peu à Facebook, aux outils Google, etc. Et une des personnes intervenantes, alors je ne sais plus du tout de quel média elle était, a cité Mastodon et justement peut-être le besoin d'être aussi présent sur Mastodon pour voir comment ça fonctionne, pour s'approprier l'outil, en plus d'être présent sur Twitter. Donc il y a un écho dans ces milieux-là, et avec des outils qui sont développés de plus en plus. Alors il y a Mastodon, il y a Framasphère, c'est un... C'est Diaspora, c'est ça. Ouais. C'est Diaspora, donc un outil de réseau social, on va dire, en libre. Et puis Framasoft développe pas mal d'outils. Donc par exemple sur les vidéos, il y a Peertube aussi. Ouais. Par rapport, donc ce que je vous disais tout à l'heure, quand je vous parlais tout à l'heure juste avant l'Ubuntu Party, les vidéos qui sont téléchargées sur l'Ubuntu Party sont téléchargées sur une instance Peertube. Alors une instance Peertube, c'est un réseau décentralisé de vidéos pour évidemment offrir une alternative décentralisée, loyale à YouTube. Et donc, toi, dans le cadre de tes demandes, est-ce que tu as des gens qui te demandent vraiment de leur installer, par exemple, un Peertube ou de les former à ça, leur expliquer?
Alors, la demande pour des instances de Peertube, il n'y en a pas encore trop. Mais j'en parle, puisque je fréquente un peu, il y a quelques artistes dans le coin où j'habite, etc. Et j'essaye de les amener vers ces choses-là. Donc, j'ai quand même installé une instance Mastodon et Peertube. Et mon instance Mastodon est sur invitation. L'idée, c'est d'avoir des gens du coin... pour qu'on puisse avoir, parce que sur Mastodon, on a une vision globale du réseau fédéré, mais aussi on peut avoir une vision locale.
Tout à fait.
Et donc ça, ça peut être très intéressant pour lier la vie locale.
Ça permet de lier de la vie locale, mais ça aussi permet de lier des vies par rapport à des centres d'intérêt. Et donc, et d'être, de ne pas être soumis à la censure d'une seule entreprise qui est en l'occurrence Twitter. Dernière peut-être question, parce que après on va faire la pause musicale. Je crois que tu fais aussi ou tu as commencé à faire des conférences gesticulées.
Oui.
Est-ce que tu peux nous en dire deux mots sur quel est l'objectif de ces conférences gesticulées?
Alors justement, l'objectif, c'est de sensibiliser le grand public aux différentes problématiques, notamment le truc un petit peu que j'ai un petit peu fait tourner, s'appelle le prix du gratuit. Et cette conférence, au début, j'ai développé pour une association à Rennes. Ça a pour objectif de rendre plus transparent ce qui se passe derrière les géants du web. Parce qu'on parle toujours de Facebook, Google et Apple, Amazon, machin, les GAFAM, mais en fait... Ça, c'est la partie visible de l'iceberg. Et derrière, il y a toutes les entreprises dont le grand public ne connaît pas le nom. Et l'idée, c'est vraiment de leur montrer ça et de montrer comment on fait pour gagner des élections aux États-Unis ou en Angleterre, etc. Le côté caché de tout ça, ça touche un peu plus les gens. Donc vraiment, c'est ça l'objectif.
D'accord. On va rappeler qu'une conférence gesticulée, ça mélange des savoirs chauds et des savoirs froids. Et donc, si des gens veulent t'inviter à faire une conférence, ils peuvent te contacter.
Tout à fait.
Donc sur oga.fr.
Ouais.
Exactement.
C'est ça.
Merci. Ok. Bah écoute, merci Emmanuel. On va faire. Donc c'était la chronique Itzik numérique d'Emmanuel Reva. Donc son site oga.fr, oga avec un H, hein, donc H-O-G-A.